Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy.
Voilà, merci d'être avec nous depuis l'autre bout de la France, quelque part au bord de la Méditerranée. On aura peut-être droit, durant cette émission, à une petite touche d'accent du sud, du sud-est, de la Côte d'Azur, un peu à la Pagnole, Hervé.
J'exagère, Guy.
Voilà, nous sommes dans le ton et au sommaire ce mois-ci pour faire écho, même si c'est un pur hasard, au tout chaud dernier numéro de la revue 813 avec ses croissants tout aussi chauds en couverture, un numéro dont le dossier est consacré au polar français. Au sommaire aujourd'hui, donc dans Variation en noir, deux auteurs français pour deux romans qui s'inscrivent dans une veine chère au polar français, le roman noir politique, dirais-je. Nous parlerons donc de La nuit tombée sur nos âmes de Frédéric Paulin aux éditions Agulot et de Maldon de Serge Quadrupani chez Métellier Noir. Alors pour commencer, Hervé, un mot sur le numéro 140 de la revue 813. Comment est venue l'idée de ce dossier, Hervé, un dossier, donc le polar français premier de cordée ?
Eh bien l'idée, elle est venue du fait que ces temps-ci, on disait beaucoup dans les gazettes, dans les émissions, on lisait beaucoup que le polar français, ça on peut s'en réjouir, avait le vent en poupe, mais que y compris une chaîne de référence comme BFM n'hésitait pas à annoncer que parmi les 10 romans policiers les plus lus dans le monde, le trio de tête était français. Alors on a évidemment on ne se berce pas non plus de ce cocorico-là, auquel on correspond assez peu, je pense. C'est-à-dire qu'on a pensé que la question était quand même évidemment on défend le roman noir, le polar, la littérature criminelle, mais pas n'importe quoi à l'intérieur de cela, et en tout cas pas une littérature qu'on estime formatée, dans laquelle peut-être que justement les titres les plus vendus, je veux pas généraliser, mais disons, soient des choses qui quand même correspondent à ce formatage-là. Et donc, on a choisi de mettre l'accent sur des auteurs qui pratiquent une grande diversité d'inspiration, tout en gardant évidemment les codes du roman du polar, et qui peuvent être dans la dénonciation critique, dans le retour sur l'histoire, dans l'humour corrosif, dans la dystopie, et qui parfois d'ailleurs ne sont pas édités dans des collections dédiées au polar. Et c'est comme ça que on donne la parole ou on écrit sur Hervé Lecor, Jean-Christophe Tixier, Pascal Dietrich, Dominique Manotti, Marin Le Dain, et Yves Ravet, qui je crois nous est cher à tous deux.
Exactement, exactement. Et donc, alors, il n'y a pas une volonté d'exhaustivité, bien entendu, hein, c'est un coup de projecteur.
Ça a correspondu quand même aussi à des, comment on dira, disons dans un délai de 6 mois à peu près, à des parutions de des auteurs qu'on vient de citer.
Voilà, parce que les deux auteurs que nous avons à notre sommaire aujourd'hui ne figurent pas dans ce numéro. Alors, 813, on a déjà la revue 813,
on a déjà parlé. Et Frédéric Paulin, dont on va parler tout de suite après, l'auteur de La nuit tombée sur nos âmes, il y avait un long entretien avec lui dans un numéro qu'on avait publié sur l'Algérie.
Voilà.
À propos de son triptyque paru chez Agulot. Et il vient par ailleurs de recevoir le trophée 813, le prix du meilleur roman français pour son...
La fabrique de la terreur.
Voilà, merci à toi.
Oui, le dernier volet de sa trilogie Ben Lazar.
Absolument. Voilà.
Alors, nous reviendrons sur...
Ses romans sont aussi, en général, chroniqués dans nos colonnes, et il a déjà participé à 813. Voilà, donc oui, bien évidemment, comme tu dis, ça n'est pas exhaustif, et ses auteurs seraient aussi les bienvenus. Ainsi d'ailleurs que, je signale, parce qu'il y a un long coup de projecteur sur Jean-Christophe Tixier, mais qui a l'originalité d'être fait par une auteure qu'on aime et qu'on chronique aussi, qui est Marion Brunet.
Tout à fait.
Voilà, c'est une auteure qui parle d'un auteur. L'inverse sera certainement vrai dans le futur, et c'est très plaisant aussi.
C'est un peu le principe, l'idée aussi de 813, de réunir à la fois des amateurs, des auteurs, des éditeurs, voilà.
C'est absolument le principe, qu'il y ait cet aller-retour, qu'il y ait cette horizontalité, et par ailleurs, c'est peut-être une anecdote, mais je trouve qu'elle est très parlante, j'ai été absolument ravi de découvrir, il y a un mois de cela, à Strasbourg, que... Dominique Manotti, dont il est question dans ce numéro, il y a une interview faite d'ailleurs par un autre écrivain, François Muratet, sur son Marseille 73, et j'ai découvert que le grand romancier espagnol Victor de l'Arbol, qui avait adoré le livre de Manotti, a pris sur lui de le traduire en espagnol et de le faire éditer.
Ah d'accord.
Ce qui est quand même, je trouve, que des auteurs qui s'occupent avec tant de plaisir d'autres auteurs, je trouve ça assez remarquable.
Alors, donc, on reviendra sur ce numéro, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. On n'a pas eu le temps, il est tout chaud, de parcourir les détails, mais notamment, il y a un article...
Chaud les croissants chauds.
Voilà, de réflexion intitulée « Pour en finir avec le noir », avec un point d'interrogation de Gérard Lecoq, sur lequel on reviendra, parce que c'est un article très riche et qui pose beaucoup de questions sur les genres en littérature. Il est écrit « Les genres en littérature, c'est comme les virus, tout le monde veut s'en débarrasser, mais il persiste et s'accroche », voilà, donc on reviendra là-dessus, puis il y a aussi des histoires de...
Il y a un très bel écho quand même, qui est d'ailleurs cette phrase qui est mise en avant du texte pertinent et passionnant de Gérard Lecoq. Il dit « L'avenir du roman noir, c'est de redevenir le roman tout court qu'il était au XIXe siècle, de reconquérir cette position perdue, d'effacer cette frontière artificielle qui permet de mieux le retenir dans les filets d'un genre marginalisé. » Alors tout ça peut évidemment se discuter, mais c'est en tout cas très intéressant, et ça fait écho à ces auteurs qu'on met en avant dans ce dossier sur le polar français premier de cordée.
Oui, voilà. Et puis il y a aussi des histoires de confinement, donc tout ça, nous y reviendrons.
Oui, avec quand même des gens... assez intéressant, puisque cette fois, ceux qui nous parlent du confinement, ce sont des auteurs d'Amérique du Nord, ce sont des auteurs qu'on connaissent bien les amateurs de polar et les auditeurs de cette émission, puisque on a des textes de Larry Foundation, de Jay Kingson.
Ouais, c'est étonnante histoire, de Jay Kingson avec Anne-Sophie Rouvelot qui est sa compagne. Donc l'un vit de l'autre côté de l'Atlantique et l'autre ici en France. Et voilà, ouais, c'est vraiment un regard intéressant sur cette période de confinement. Alors Hervé. Un auteur, donc Frédéric Pollin, qui contribue quelque part aussi à une forme de renouveau du polar français, ou tout au moins un auteur qui contribue fortement au fait que ce polar français tienne la forme. Très remarqué, on l'a dit, pour sa trilogie Ben Lazare, dont le troisième volet, tu l'as dit, a obtenu le trophée 813, mais il y a plein de prix, hein, on ne va pas tous les citer. Pollin a obtenu beaucoup de récompenses, de prix, hein, pour cette trilogie. Et est arrivé un nouveau roman, La nuit tombée sur nos âmes, aux éditions Agulot. On remonte 20 ans en arrière. Alors ce matin, avant de venir, en écoutant les informations, je me suis dit on est vraiment en plein dedans, puisqu'on annonce, hein, pour ce dernier week-end d'octobre, une réunion du G20 à Rome, en Italie, avec une sécurisation importante de la ville, mobilisation des forces de police. J'entendais aussi aux frontières repérage des différents militants qui arrivent en Italie, des black blocs, des anards, etc. Et donc c'est une actualité qui résonne complètement avec ce roman qui donc nous fait remonter à Gênes en 2001 à l'occasion de la réunion d'un G8, et à l'occasion de ce G8, 500 000 personnes qui s'étaient rassemblées, hein, pour refuser l'ordre mondial des puissants, et c'est là-dedans que nous emmène Frédéric Pollin, Hervé.
Oui, on va plonger dans qui est le contre-sommet du G8 de Gênes du 19 au 22 juillet 2001, et avec ce qui commence par une atmosphère festive. Il y a 400 à 500 000 personnes qui viennent d'Italie, mais de toute l'Europe et même de plus loin, qui vont se rassembler à Gênes avec des manifestations thématiques chaque jour de prévu, contre la mondialisation, pour les migrants, et puis avec un concert géant de Manu Chao. Donc tout ça part avec, on y trouve évidemment toutes les obédiences de la mouvance altermondialiste, allant de attaque aux anarchistes, aux autonomes, en passant par les Tutti Bianchi italiens, en passant par la LCR, en passant par les syndicats solidaires, la CGT, etc. Bon, et donc il y a une atmosphère au départ qui est très festive, mais qui va arriver dans une ville qui est plus qu'un camp retranché, enfin où règne une ambiance absolument, on peut dire terrifiante, comme l'écrit Frédéric Pollin. Une véritable campagne de terreur a poussé les habitants de Gênes à fuir ou à se terrer chez eux devant la barbarie altermondialiste qui vient. La ville est déserte, l'état de siège est proclamé et il y a une mobilisation, je crois, de 25 000 membres des forces de l'ordre, dont il faudra parler, et de leur commandement et de ce qui les compose, qui est quand même... on sait que les forces de l'ordre partout sont capables de répression, y compris partout en Europe, mais les forces de l'ordre en Italie sont quand même, pour une part, beaucoup imprégnées d'un, d'un post-fascisme.
Oui, alors donc, bon, rappelons-le, c'est un roman, et donc Frédéric Pollin nous emmène sur la trace de plusieurs personnes. Bon, c'est très riche, hein, très, très, très documenté. Alors déjà, Wag et Nathalie, un militant et une militante hein, qui sont venus pour participer à ces manifestations, cette mobilisation, d'origine militante différente. Hein. Wag qui lui vient de la LCR, à l'époque on disait encore LCR, donc plutôt...
Le NPA actuel, oui.
Voilà, voilà hein, donc une structure organisée, encadrée, et Nathalie, elle, qui est plus proche des Black Blocs, des autonomes, hein, donc des militants qui cherchent aussi une confrontation directe avec les représentants.
Ouais. Voilà, qui veulent en découvrir.
Voilà.
Qui veulent un peu tout de suite.
Donc il nous plonge dans ces journées.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que, on le sait d'emblée, alors on peut le dire, c'est que Wag, le garçon de ce couple, il est par ailleurs... il a été retourné par les flics aussi.
Voilà, c'est ça.
Donc, d'entrée de jeu, ça crée une situation qui n'est pas seulement leur opposition, qui peut créer des choses parfois d'ailleurs même un peu drôles, puisque Frédéric Pollin est très fort, il est évident qu'il connaît très bien ces différentes mouvances, et il est très fort pour ne pas du tout les caricaturer, mais pour en montrer malgré tout certains aspects, y compris paranoïaques. Qui a connu les mouvances militantes, sait combien on cherche qui est l'infiltré, qui est le flic, qui est le... Voilà. Et il est très subtil dans ce kaléidoscope qui va se retrouver à Gênes, même qu'il est très subtil aussi pour parler de ce qu'il y a en face côté
tout à fait.
Policier, ouais,
mais
côté
c'est...
politique.
Tout à fait, ce n'est pas un roman militant, soyons clairs, mais bon, voilà, il nous plonge vraiment dans ces journées, et effectivement, tu as raison, il aborde aussi, puisqu'on suit je pense qu'on parle encore de Hergé à cette époque, enfin des policiers français,
des renseignements
hein, qui suivent, qui infiltrent, qui, voilà, et tout ça c'est aussi très fort dans le roman, la manière d'infiltrer les mouvements, de retourner, hein, de créer des balances quelque part. Hein, et puis, donc, le lien entre cette police française, les militants, et tu l'as dit, la police italienne sur les dents, et elle a infiltré, on pourrait dire, par des nostalgiques du fascisme et de Mussolini. C'est vraiment une plongée dans toutes ces arcanes, et c'est pour ça que je parlais, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, alors c'est peut-être pas le bon mot de roman politique, mais on est vraiment au milieu là, de toutes ces oppositions, de ces organisations, vraiment, bon, qui se termineront de manière tragique, on le sait, hein, puisqu'il y a un jeune Italien qui va y laisser la vie, et puis sans compter les blessés, les arrestations, les jugements, etc., les emprisonnements, hein, mais c'est vraiment... moi, j'étais impressionné par ce roman, Hervé.
Oui, c'est totalement impressionnant. Il est dans la veine, à mon avis, qu'avait ouverte Manchette avec l'affaire Ngustro, qui était pas un décalque, mais qui s'inspirait de l'affaire Benbarka, et après, qui a été notamment illustré, bon, on parlait de Dominique Manetti tout à l'heure, mais avant elle, par Meurtre pour mémoire de Didier Daninx, qui était quand même le premier texte public et ayant une grande audience qui révéla les massacres d'Algériens le 17 octobre 1961
dont on a
évoqué il y a quelques jours.
Ouais, les 60 ans. D'ailleurs, le timing est Daninx, il publie son roman une vingtaine d'années après ces massacres, et pour là, c'est pareil. Hein, c'est une vingtaine d'années après années après Gênes que sort son ce roman, et avec effectivement un point commun hein, entre Paulin et Dénag, c'est que voilà, c'est l'utilisation d'une histoire récente dont le travail peut faire surgir des vérités cachées ou falsifiées par le discours officiel. C'est vraiment un point commun. Moi, je, justement, à l'occasion de la commémoration là, du 17 octobre 61, j'ai relu hein, Mortre pour mémoire. Alors, le procédé littéraire est légèrement différent parce que Dénag, lui, il mène. Il met son inspecteur Cadin dans une enquête sur un crime qui a lieu en marge des manifestations, ce qui ne l'empêche pas de nous plonger directement dans ces manifestations, alors que Paulin, lui, centre vraiment son roman sur ces journées, la manifestation.
Ah ben, à part une entrée en matière qui se passe quelques semaines auparavant à Göteborg, où il y a qui annonce en gros. Göteborg est un petit peu en liesse, mais aussi un peu en feu, et qui annonce le contre-sommet de Gênes. Tout le roman se passe, si j'ose dire, dans ce lieu clos qui est devenu la ville italienne fortifiée. Et il est évident que, oui, Frédéric Paulin, il est aussi d'une autre manière. Bon, il a voulu raconter cette manifestation, il veut raconter, et sa répression énorme, hein, il y a eu 600 blessés, parce qu'il y a eu la mort de Carlo Giuliani, mais il y a eu également des scènes de torture, de castagne, notamment à l'école, dans une école.
Oui, l'école Diaz.
L'école Diaz. Après, il y aura y compris, on a les manifestants et Frédéric Paulin en était, hein, d'ailleurs, pensaient tous que au lendemain de la mort de Carlo Giuliani, la police ferait profil bas, c'est-à-dire que en gros c'était comme on dit une bavure et qu'il n'y et qu'après tout. Or, pas du tout, c'est-à-dire que le lendemain, les forces de l'ordre, si on peut appeler ça ironiquement ainsi, se déchaînent complètement sur les manifestants et vont se lâcher avec évidemment avec la bénédiction de leurs supérieurs, dont certains sont il faut le redire parce que c'est quand même assez il y a des scènes absolument terrifiantes et tout ça est assez terrifiant puisque tout ça se passe en Europe quelques semaines avant, de toute façon, certains anciens membres influents du mouvement social italien, c'est-à-dire le mouvement néo-fasciste de Gianfranco Fini, lui-même est devenu vice-président du Conseil et Berlusconi a fait entrer ces gens au gouvernement.
Oui, donc alors tu évoquais l'école Diaz, hein, la police, hein, rentre dans cette école, il y a la description par Paulin. Il y a une ou deux pages là, moi, qui m'ont vraiment fait penser à Dénag, que quand les CRS attaquent vraiment de front et avec une violence inouïe les manifestants pacifistes algériens le 17 octobre 61. Une filiation peut-être alors quelque part entre. je sais que tu l'as rencontré, Frédéric Paulin, tu as animé des rencontres avec lui. Est-ce qu'il évoque un petit peu cette filiation, donc avec une forme de tradition du roman noir français, cette veine un peu politique portée par Manchette, Dénag.
Il est complètement dans cet héritage-là, c'est-à-dire que tu as raison de le dire, d'une manière totalement romanesque et en utilisant il faut le répéter, parce qu'il y a des couples de personnages, on a parlé des deux manifestants, mais il y a aussi les deux lieutenants Casalone et Martinez, il y a les journalistes, la jeune journaliste d'investigation et le vieux routier, Genovefa et Corbeil, tout ça permet une construction romanesque Évidemment qu'on connaît la fin, puisque malheureusement, on sait comment s'est terminé ce G8 de Gênes et ce contre-sommet, mais il est évident que cette construction romanesque, elle est aussi avec cette idée que le passé éclaire le présent, qui est une idée aussi de Manchette, de Bénin, de Manotti, d'autres. Et il est évident qu'en même temps, Frédéric Paulin a tenu à le faire parce que c'est un passé récent, c'était il y a 20 ans, mais c'est un passé déjà gommé, puisque de toute façon, bien évidemment, les autorités italiennes ont voulu blanchir la chose, y compris, il y a eu vaguement quelques poursuites, mais une grande partie des responsables policiers de la répression à Gênes ont depuis été promus. Il n'y a aucune poursuite judiciaire qui se poursuit, malgré des condamnations de la Cour européenne, de Amnesty, etc. Et d'un autre côté, et ça c'est aussi important, il y a toute une génération dont Frédéric Paulin fait partie, là c'est le personnage de Wag quand finalement il s'enfuit de Gênes à la fin. Et il dit, il sait qu'il n'en remontera pas, il sait que sa jeunesse qu'il voulait encore retenir un peu vient de lui échapper. Il sait qu'il ne reviendra pas de Gênes comme il y était venu. Et je crois que ça donne aussi un sens au titre du livre, « La nuit tombée sur nos âmes ». C'est-à-dire qu'il y a là ce sont des illusions perdues, des illusions massacrées, disons.
Écoutez Radio PFM, Variation en noir. Hervé, on ne pouvait pas ne pas proposer
intercalaire d'une version de Bella Ciao.
Voilà, Bella Ciao, version musicale, une interprétation de Todico et de son orchestre extraite d'un disque Les Voix dites Sassou qui revisite un certain nombre de chants liés à des mobilisations, à des révolutions, hein, du temps des cerises, à sta siempre commandante, donc jusqu'à ce Bella Ciao. Voilà. Alors après, un auteur qui monte, un vieux briscard du polar français, 30 ans après son premier roman, Y, qui est d'ailleurs republié en poche à ces temps-ci. Serge Quadrupani nous donne un récit ce n'est pas un récit autobiographique, mais quand même il est là sans être là, tout en étant là dans ce roman, et quelque part j'y pensais, hein, quand tu évoquais le titre de Frédéric Paulin, ce roman qui s'intitule Maldon aux éditions Métellier, hein, d'ailleurs le premier roman de Quadrupani était déjà publié chez Métellier. C'est un fidèle de cette maison d'édition. Il y est aussi directeur ou responsable de la collection, la bibliothèque italienne, réputée pour ses traductions.
Oui, il a découvert quand même et traduit ou fait traduire un nombre impressionnant de grands auteurs. Voilà,
c'est, et notamment Andrea Camilleri. Ouais, notamment Andrea Camilleri. Dans son roman, son personnage principal est le traducteur d'Andrea Camilleri. Mais je me disais, La nuit tombée sur nos âmes.
Antonin Gandolfo, voilà. le personnage principal qui évidemment emprunte des traits à Serge Quadrupani, mais pas son physique, puisque Antonin Gandolfo est petit et dodu, ce qui n'est pas le cas de Serge.
Oui. Et donc, je me disais, La nuit tombée sur nos âmes, ça aurait pu aussi être le titre de ce livre, qui n'est pas un livre. Il n'y a pas de nostalgie, mais il y a quand même une forme peut-être de dépit ou de désillusion sur toutes ces années d'engagement, et avec un livre qui se termine à Gênes, hein, donc c'est le point de rencontre entre Paulin et Quadrupani pour le coup. Voilà, donc un auteur qui interpelle aussi ses lecteurs, hein, Quadrupani. On voit que c'est quelqu'un qui a quand même qui maîtrise complètement son sujet, et qui écrit par exemple: non, il n'y a pas mal d'hommes, vous n'êtes pas en train de lire les premières phrases d'une autofiction à la française tendance cause animale, mais bien le début d'un polar, et qui coïncide avec le récit de ce qui s'annonce comme les derniers temps de ma vie, ne devrait pas vous gêner pour vivre par procuration des aventures palpitantes. Voilà. Donc, alors...
Il y a un point commun aussi, c'est qu'en dehors de donner un traitement romanesque et d'évoquer l'un dans tout son roman et l'autre à la fin, je parle de Quadrupani dans Maldon, comme tu le disais, ils ont le point commun d'avoir été tous les deux à cette manifestation de Gênes. Et Quadrupani dit aussi, c'était joyeux et triste à la fois, joyeux parce que tout le monde, punk à crinière et prof à lunettes, vieux représentant de la culture ouvriériste et jeune ultra-percé, porteur de banderoles et individu sans appartenance revendiqué, tout ce monde qui parlait tant de langues d'Europe et d'ailleurs, en avait trouvé une commune, frappé en cœur ce symbole de la paranoïa des puissants, c'est-à-dire c'était l'initiative des Toutibiens qui frappait contre des parois et tout de manière non violente, ce qui n'empêcha pas qu'ils se firent massacrer par la police. Et c'était triste, ajoute-t-il, parce que nos poings cognaient du fer inébranlable. Et il termine après en disant, c'est aussi cette marque de désillusion que 3 jours après, on avait l'impression d'être débarqué de la Lune devant l'ampleur de la répression qui s'était abattue sur Gênes.
Alors donc, je le disais, et toi je sais que tu l'as rencontré, bon, tu connais très bien Serge Quadrupani, tu as animé une table ronde récemment avec lui, donc on est, bon, donc c'est un roman, hein, qui s'étale un peu du post-68, donc jusqu'à ces dernières périodes, et qui montre aussi, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, une forme de dépit, hein, de ces personnes engagées dans toutes ces mobilisations, civilisation, dans ses aspirations à un autre monde, des aspirations aussi à la révolution. Et d'ailleurs, il y a une, on donne un conseil à ce personnage, Antonin, une avocate, je pense. Hein, le conseil, le voilà, t'as un brin de plume et de l'imagination, alors au lieu de courir après un fantasme de révolution, tu ferais mieux d'écrire des romans. Est-ce que c'est Quadrupadi, Serge Quadrupadi, ce n'est pas un conseil qu'on lui a donné il y a une trentaine d'années?
Ça, je ne répondrai pas pour Serge Quadrupadi. Mmh. Il est évident que Serge Quadrupadi, qui a par ailleurs continué à accompagner différentes aventures critiques, subversives de l'ordre établi, en s'engageant aussi, par exemple, dans le mouvement Notav contre la ligne à grande vitesse du Val de Suse, mais aussi aux côtés des gens de Tarnac, aux côtés de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, etc., et dont les écrits sont... publie aussi des écrits, il a écrit Au Seuil, La politique de la peur, enfin bon, voilà, c'est, il n'a pas, mais il y a cette œuvre romanesque, et il y a, dans Maldon, il y a aussi un retour sur toute une période où les intellectuels de gauche, franchement de gauche à l'époque, prenaient aussi parti pour des délinquants, des gens emprisonnés. Il y a un personnage dont Antonin Gandolfo a écrit, pour lequel il a écrit une sorte de mémoire en défense, enfin bon, qui est Georges Nicotra, qui est une sorte de croisement, pour ceux à qui ça peut dire encore quelque chose, de Roger Knobelspies et de Pierre Goldman.
Tout à fait, ouais.
Voilà, qui... sur des figures et qui Pierre Goldman fut accusé qui était entre un gauchisme très militant et des activités un peu illégales et qui fut accusé d'avoir assassiné un couple de pharmaciens et qui fut défendu par de très très nombreux intellectuels et pour qui Maxime Le Forestier à l'époque composa une chanson. Et de l'autre côté, Roger Knobelspies, qui était un délinquant, qui fut emprisonné et qui dont les écrits firent beaucoup pour la fin des quartiers de haute sécurité, qui étaient des quartiers terribles d'enfermement en France. Voilà, alors il y a tout ça dans ce roman, il y a un retour là-dessus, il y a des désillusions, mais il y a aussi plusieurs récits qui s'enchevêtrent, et y compris, il y a une très jeune femme, Olga, dont il y a également les confessions, et qui remue aussi beaucoup les certitudes et un peu parfois la morgue, enfin le côté donneur de leçons d'Antonin Gandolfo, le vieux gauchiste.
Voilà. Mais Maldon, donc Hervé, de Serge Quadrupadi.
Ah, c'est très savamment construit, très intelligent et très réjouissant aussi.
Donc un roman que l'on recommande particulièrement, tout comme, donc vous l'aurez compris, La nuit tombée sur nos âmes de Frédéric Paulin. Donc Frédéric Paulin, c'est aux éditions Agulo, et Serge Quadrupadi, c'est chez Métellier. Voilà, c'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard, et bonne lecture à toutes et tous.
Voilà, et rendez-vous dans un mois.